Salut à tous, c'est Jean-Côme qui vous parle et bienvenue dans Le Cockpit, le podcast sur la prise de vue FPV. Aujourd'hui, pour ce second épisode, je suis très content d'accueillir Félix, que vous connaissez pour beaucoup sous le pseudo Airflex sur YouTube. L'idée de la discussion, c'était d'explorer tout son parcours en partant de sa période en tant que jeune hobbyiste jusqu'à aujourd'hui, pilote de gros porteurs, également appelé cinélifter. Pour tous ceux qui ont envie de se lancer, il y a beaucoup de conseils à prendre dans ces discussions. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut et bienvenue dans le cockpit.
Salut, ben merci.
Bah écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir. Donc tout le monde te connaît sous le pseudo Airflex.
C'est ça, exactement. Ouais. Le nom de ma chaîne YouTube.
Exactement. Mmh. Et donc moi j'avais envie aujourd'hui beaucoup de te parler parce que t'as une bonne évolution en tant que pilote FPV qu'on peut d'ailleurs suivre sur ta chaîne YouTube tout du long, ce qui est assez cool pour tous ceux qui commencent de voir d'où tu viens et où est-ce que t'es aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu peux déjà te présenter un peu et nous dire comment t'as connu le FPV et comment ça a commencé pour toi, quoi?
Ok, bon bah je m'appelle Félix, j'ai 25 ans et ça fait quoi, 6 ans que je fais du FPV? Je crois que j'ai commencé fin 2015, donc ça commence à faire. Et après en fait, au début, j'ai bien galéré et petit à petit, j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube. Ça a plutôt bien marché, j'ai pu avoir du matériel. Et j'ai avancé comme ça, sans me poser de questions, et à fond, tous les week-ends, je faisais des vidéos, tout mon temps libre, je faisais ça. Et maintenant, c'est mon métier depuis 3-4 ans, après pas que FPV, mais aussi vidéo. Et ça, on va détailler tout ça par la suite, je crois.
Carrément. Au début, c'était forcément plus difficile qu'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que t'avais des composants électroniques un peu plus random... Ça se passait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Comment t'as fait un peu pour t'améliorer, quoi, finalement?
Alors, ouais, tout au début, le contexte était pas du tout le même. Il y avait pas de vidéos YouTube, pas beaucoup. Il y avait 3-4 YouTubeurs et américains. C'était Mister Steel, c'était Charpu. C'était. Je crois qu'il y avait Rotor Riot, tout juste. Et en gros, il y avait pas de tuto. Il y avait peut-être Joshua Bardwell, mais il y avait vraiment pas beaucoup de tutos. Et donc, c'était l'enfer. C'était l'enfer, on était sous Open Pilot, il n'y avait pas Betaflight tout au début, si, peut-être ça y était, ou alors ça venait de sortir.
C'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui,
on
quoi.
On était sous... C'est ça, c'était sous Clean Flight, Open Pilot, et c'était la merde. Juste pour mettre un buzzer, je galérais. Tout était plus complexe, et en plus, il n'y avait pas d'informations sur Internet. Enfin,
mais il n'y avait clairement pas tous les tutos pour faire un premier 5 pouces comme il y a aujourd'hui, quoi.
Exactement. Voilà pourquoi j'ai commencé aussi ma chaîne YouTube. Pour un peu remplir ce besoin.
Ouais, t'as bien fait. Et puis du coup, c'est vrai qu'on tombe facilement sur toi aujourd'hui quand on cherche sur YouTube des petites questions qu'on peut avoir en tant que débutant. T'as réussi à bien cibler des besoins qu'on peut avoir quand on commence, quoi. Donc ouais. Ça, c'est top.
Mais en fait, aussi, je suis parti du principe en faisant ma chaîne YouTube que j'apprenais et que je faisais des erreurs. J'étais débutant et je voulais apprendre avec les autres. Et apprendre aux autres ce que j'apprenais tout juste. Donc il y avait des choses qui n'étaient pas très très bien. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup d'erreurs dans ce que je disais. Enfin, il y avait des erreurs. C'était pas complètement faux, hein. Faut bien qu'on se le dise. Mais voilà, je ouais, savais.
Tu documentais ton apprentissage, quoi.
Exactement. J'étais pas un expert. Mais n'empêche, grâce à ça, ça m'a permis d'apprendre et de m'obliger à apprendre et d'être relativement rigoureux.
Est-ce que finalement ça t'a donné un peu aussi une pression de devoir mettre des contenus YouTube et du coup ça te permet de te pousser à aller apprendre toujours plus de choses?
Exactement, j'étais vraiment dans cette dynamique là et c'est pour ça que je continuais, hein. C'est parce que je voyais que ça m'apportait énormément et aussi ça m'apportait énormément au point de vue personnel. Le fait de parler devant une caméra, pour moi c'était des compétences qui étaient juste magiques, pour moi c'était un super pouvoir, ouais. Tu vois, de pouvoir communiquer super facilement sur les réseaux. Et, Et actuellement, c'est vrai que ça me sert énormément, même dans la vie de tous les jours, juste pour parler, juste pour être plus à l'aise avec les gens. Parce que je suis quelqu'un de très réservé de base.
Là, bah, c'est vrai que ça a transparé, quoi. Tu parlais que qu'on te filait du matos, du coup, c'est que t'étais sponsorisé ou comment ça se passait pour toi?
Non, j'ai pas été sponsorisé, j'ai jamais été, j'ai pas envie de l'être, surtout sur du matos FPV.
Ouais.
Non, je travaillais avec Banggood, c'est un shop, c'est comme Amazon, mais en Chine, globalement. Et il y avait pas mal de matos FPV et pas trop cher. Enfin, il y avait la TVA en moins,
Ouais,
globalement.
voilà.
Donc, par contre, il fallait attendre peut-être 2 semaines pour recevoir ses colis. Mais en tant que débutant, parce que j'avais zéro budget hein, quand je commençais, et bah c'était bien utile, c'était carrément utile, et ça m'a permis de commencer à avoir un peu de matériel, pour moi personnellement, que je présentais aux gens, donc double bénéf. Mmh. Je pouvais faire des reviews, du coup, du contenu. Et voilà, et après, il y a eu l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est justement quand je présente un produit, je mettais un lien dans la description, et les gens qui passaient par ce lien et qui achetaient, je recevais une commission. Et au fur et à mesure, quand même, c'était des revenus relativement intéressants, surtout pour la taille de ma chaîne YouTube. Et ça m'a permis de vraiment m'impliquer à fond dans les vidéos, parce que je voyais que ça rémunérait un peu, ça me permettait d'acheter du matos, j'apprenais énormément. Donc tout bénef, donc j'ai continué.
Et alors du coup, t'as passé un jour le cap de pro, en tant que télépilote pro. Est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est passé pour toi, ce passage?
Ouais, alors ça a été très fluide en fait, parce que, et ça grâce à ma chaîne YouTube, j'ai jamais démarché, enfin j'ai envoyé 2-3 mails au début de quand j'ai commencé mon entreprise, enfin mon auto-entreprise, et bon ça amenait à rien, hein, parce que je forçais pas du tout. Et mais petit à petit, avec mes contacts, j'ai fait mon tour de France, je sais pas si t'avais vu sur ma chaîne YouTube, et j'ai rencontré des gens, et j'ai fait du contenu sur YouTube qui a fonctionné. Des gens ont commencé à me contacter pour du FPV, et en même temps je m'améliorais en vidéo, donc les gens voyaient que je faisais du FPV en plus que je faisais de la vidéo, et du coup petit à petit j'ai eu un peu tout comme Presta, la prise de vue au sol et la prise de vue drone. J'ai pas fait que du drone FPV, j'en ai jamais fait que du drone FPV. Donc pour commencer une activité, c'était parfait, cette polyvalence, parce que j'avais pas besoin de beaucoup de clients, mais je pouvais apporter beaucoup de valeur. Donc c'est un peu comme ça que je me suis professionnalisé. Et du coup, à côté, j'avais quand même YouTube, et avec l'affiliation. À ce moment-là, ça marchait très bien, parce que c'était la période du Covid, tout juste. Donc ça me rapportait entre 1000 et 2000 euros par mois d'affiliation sur YouTube. Donc juste ça, c'était un soutien énorme financièrement pour que je me pose pas de questions.
Mais du coup, ça rejoint un peu un point où je voulais t'amener, c'est quelle place ça a aujourd'hui tes réseaux sociaux, à la fois dans ton emploi du temps, mais aussi voilà, l'ensemble de ta carrière, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui?
Là, maintenant, je me suis un peu plus éloigné, enfin, je suis beaucoup moins assidu qu'avant, parce que j'ai des clients maintenant, et j'ai un vrai business à côté. Et le business de l'affiliation fonctionne moins, et enfin c'est carrément moins intéressant. Donc là je suis plus dans le pro, et après okay. Tu vois là, des fois j'ai des périodes, des fois je reviens un peu plus. En fait, YouTube ça me permet de combler mon temps libre, mais de me faire kiffer.
Voilà.
Moi
okay.
L'important c'est que YouTube ça reste vraiment une passion, et ça l'a toujours été, et que ce soit pas business. C'est vraiment, je poste ce que je veux, je fais ce que je veux. Et
un coup de kiff
voilà,
par moment, éventuellement une mini promo s'il y a besoin, mais c'est beaucoup de kiff au final.
C'est ça. Et du coup, après, j'utilise des fois, il y a des marques qui veulent m'envoyer des produits, comme en ce moment, je sais pas pourquoi, des skates électriques. Il y a des marques qui veulent m'envoyer des skates électriques.
Oui, j'ai vu récemment que t'en avais plein, mais.
Je sais, 3 du coup, et je sais pas pourquoi. Et du coup, moi, j'accepte, tu vois, ça me permet de faire une vidéo, d'avoir un petit contexte, d'avoir du matériel. C'est pas... Surtout que moi, j'aime bien, tu vois, tout ce qui est skate, et de me faire kiffer avec des potes. Et voilà, du coup, j'utilise des fois ce que des marques me proposent de présenter, comme Insta360, une caméra 360. Donc, ça m'oblige à faire un peu des vidéos, tu vois, à être un peu actif sur ma chaîne YouTube.
Ok, donc t'as toujours des choses qui te poussent à en faire, mais bon, au final, c'est vraiment pour le fun quand même. Hein.
Oui, je me mets pas de pression. Si le produit il est éclaté, je vais le dire. Hein. Le truc il est nul, et je m'en fous. Tu vois, la marque, si elle me recontacte pas, c'est pas grave. J'ai aucune pression à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je suis libre. Et du coup, on parlait aussi peut-être des sponsors au début. que je voulais pas être sponsor par des marques ouais. FEV. Déjà tout d'abord parce que je trouve pas ça intéressant financièrement. C'est pas...
Oui, c'est pas... pas là, j'ai pas l'impression que ce soit dingue, genre d'avoir 30% sur des moteurs, je sais pas si c'est vraiment...
Ouais, c'est ça, et même si y a des marques qui peut-être te donnent, je sais pas, je connais pas les trucs, mais peut-être s'ils donnent peut-être 1000 euros de matériel par an, je trouve pas ça intéressant dans ma position où, justement, c'est plus important d'être open et dire ce que tu veux de tous les produits, de toutes
et
les marques.
Et je pense aussi qu'on pourra en parler au moment des ciné-lifters, mais quand je pense que tu t'attaques aux ciné-lifters, si tu dois... Si t'es obligé de rester avec une marque mais qui propose ouais. pas les meilleurs produits pour des machines aussi exigeantes, etc. Enfin, ça peut vite te bloquer, je pense, quand même.
Exactement. Donc moi, j'ai pas du tout envie de me bloquer à ce niveau-là. Et il y a aucune marque qui m'a proposé des choses intéressantes. Donc moi, je dis... je peux faire des reviews, je peux faire des petites reviews, tu vois.
Donc t'as quand même été approché, mais t'as dit non, quoi.
Ouais, bah là, typiquement, là, ce matin, T-Motor. Ça fait plusieurs fois qu'il me relance, T-Motor. Je sais pas pourquoi. Il me relance, et du coup, est-ce que tu veux tester les nouveaux moteurs? Après, du coup, moi, j'essaie de réfléchir à des concepts. Tu vois, juste tester des moteurs, je sais pas. Mais du coup, je leur ai demandé, peut-être tu peux m'envoyer une stack avec des ESC. Mm-hmm. Déjà, financièrement, c'est plus intéressant pour moi. Et par exemple, je peux monter un drone complet avec, et faire du freestyle, ou... Enfin, tu vois...
Un drone full T-Motor, et puis tu dis ce que t'en penses, quoi.
C'est ça, et je vais freestyler avec, et enfin tu vois, après il y a plein d'idées qui peuvent en découler,
oui.
mais je veux apporter plus de valeur aux personnes, et moi tester des produits, ça me prend du temps en fait, et donc c'est pas intéressant pour moi.
Et donc tu disais effectivement, bah, avec toute cette carrière YouTube, enfin carrière, en tout cas chaîne YouTube, en fait finalement, certes t'es pilote FPV, mais donc tu fais aussi un peu de temps en temps des Presta Mavic je suppose, et t'as en fait tout simplement un œil pour la vidéo, et tu vends de la Presta vidéo qui s'avère des fois être aussi que du FPV quoi.
Ouais c'est ça, vraiment le FPV pour moi c'est un outil, en fait je suis vidéaste.
Ouais c'est ça.
Je
hein.
suis vidéaste, et le FPV c'est un outil, et après on me le demande plus souvent que d'autres personnes bien sûr, parce que bah, je suis spécialisé là-dedans, et on me demande des fois des Presta Cinéhoop en intérieur, donc je fais que ça, je fais qu'un vol Cinéhoop. Ou voilà, après j'ai beaucoup de Presta où en fait finalement je fais tout. Je fais vraiment tout. Je fais du Mavic, je fais du sol, stabilisateur et du FPV. Donc c'est ma grosse force, donc j'en profite.
Ouais, puis t'as un bon œil, je trouve, pour les formats réseaux sociaux. Enfin, je vois tout ce que tu fais pour EcoFlow et tout. Ça, c'est vraiment dans le bon délire Insta réel, tout ça, ça marche très bien, quoi, je trouve.
Ouais, bah j'ai beaucoup de demandes là-dedans, dans le réel, donc j'en profite et je m'éclate, c'est des contenus que j'aime bien faire, parce que c'est fun, il n'y a pas de prise de tête, et je m'amuse avec des potes, donc
oui.
quoi de mieux en fait.
Clairement, ouais, ça se voit que tu t'éclates. Et alors, est-ce qu'au début, au moment où tu passes pro, et on va dire par la suite, il y a eu une évolution dans les projets pro, bah, d'ailleurs dans les types de tournages où on te demandait du FPV, etc., est-ce que ça a évolué?
Non, alors bah, du classique, au début tu commences par des clips de rap. C'est le cliché, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'ai commencé comme ça, parce que bah, j'ai eu un contact avec qui bah, je suis toujours pote, et il a une boîte de prod, et maintenant on fait pas de clips de rap, on fait autre chose.
Ouais.
Mais au début, lui, il faisait du clip, et du coup, bah, y a pas des gros budgets, mais y a pas de pression, tu vois. Tu peux faire de la merde, c'est pas si grave, parce que bon, les rappeurs, ils sont pas exigeants. Enfin, ils sont complètement pétés toute la journée. Donc tu peux faire ce que tu veux, un peu quand tu veux. Mais par contre, ils te demandent des trucs complètement débiles, de voler en ville ou des trucs comme ça.
Ouais, enfin, j'ai dû refuser quelques clips comme savoir, ça. Ouais, ouais.
Faut savoir les cadrer, faut savoir leur dire ce qui est possible de faire ou pas. Et donc au début, ouais, tu commences comme ça. Après, tu peux faire des petites prestations cinéhoop dans des entreprises. En tout cas, actuellement, c'est ce qui marche bien. Et si tu commences dans l'FPV, je pense qu'il faut se démarquer un peu comme ça, proposer de la visite de bâtiment. Mais en tout cas, un truc récurrent, ouais, avec le drone FPV, c'était les visites de centrales solaires. Ce que je fais toujours, hein, c'est un client à moi. Et du coup, bah, je fais du FPV. Maintenant, j'essaie d'incorporer du gros porteur pour me faire kiffer. Hein. Voilà, et m'entraîner, en fait, tester les machines,
bah,
aussi,
ouais,
mine de rien.
Ouais, t'as bien raison.
Parce que c'est bien d'avoir des gros porteurs, mais sur des vrais prestats,
ouais, faut les sortir,
il vaut mieux
je
être
pense,
carré.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc c'est bien de temps en temps sur des prestats, même si c'est pas demandé, de bien le signaler au client,
ouais,
que tu fais du gros porteur et tout, et que ça a un coût normalement, donc tu valorises le client et la prod, mais il faut bien lui faire comprendre que c'est pas normal ce que tu fais et que tu lui donnes énormément de valeur, mais toi ça te permet d'être plus carré après sur des vrais prestats gros porteurs, ce que j'ai été plus ou moins On en parlera peut-être après. Mais ça s'est toujours bien passé, donc c'est okay. Le principal.
Du coup, pendant que tu étais dans ta période plutôt, on va dire, GoPro, 5 pouces, etc., t'avais combien de drones à peu près en tant que pro? Comment ça se passait niveau matos? T'avais tout en double? Comment tu gérais ça, toi?
Alors, bah, tout au début, quand tu fais tes premiers clips de rap, t'as deux drones, un Cinewhoop et un 5 pouces. Enfin, moi, c'était mon cas. Donc, voilà, fallait pas chier dans la colle. Et après, petit à petit, bah oui, il faut mieux avoir deux 5 pouces, au moins. Et ouais, 2-5 pouces, et après, ça dépend ce que tu fais comme presta, mais il faut avoir tout en double. À part la radio et le masque, où j'en ai eu en double, mais au final, ça m'a jamais servi. Parce que si tu t'en occupes bien, tu fais attention au matériel, il n'y a pas de raison qu'il tombe en panne. Voilà. Ou alors, faut pas avoir...
Moi, j'ai eu un problème à un moment sur mon module Crossfire. Le câble UFL à l'intérieur, c'était pété. Donc j'ai dû le remplacer, mais...
Ah ouais.
Mais la radio en tant que telle, ouais, tout ça, j'ai jamais eu de problème non plus. Après, j'ai moins d'expérience que toi quand même. Mais...
Moi, la Tango 2, j'en ai eu deux. Aucun problème sur les deux.
Ok.
Le masque, non plus. Donc au final, c'est des choses... Et ça coûte cher.
Bah donc, c'est ça, pas... c'est vrai que les doublés, puis en plus, faut les transporter. Enfin, s'il y a toujours la question du transport de matos,
voilà,
c'est
ça, prend de la place.
Ouais. Ok, donc du coup, t'avais un peu okay. tout en double, et bon, peu à peu, tu doubles un peu tes machines aussi, etc. T'as différentes machines pour différents
besoins. Et au niveau des batteries, j'en avais pas beaucoup, hein, j'en avais entre 6 et 10, hein, batteries.
Ouais.
Donc voilà, vraiment pas beaucoup, mais ça peut suffire, tu vois, selon les prestas. Ça fait quand même du contenu, hein. 10 batteries, 10 Rush GoPro, 2-3 minutes, ça fait quand même du contenu pour un clip de rap. C'est suffisant en général.
Et du coup, après, t'as fait évoluer le matos, quoi.
Bah après, il faut plus de batterie, il faut les dernières GoPro, parce que je filmais avec la GoPro 6.
Ouais.
Donc, faut acheter un peu les dernières GoPro, tant qu'à faire. Et ouais, après, nouveau PC. C'est ça.
Faut oui, PC pour Giroflow, ouais.
Ouais, c'est ça, pour faire les montages, tout simplement. Surtout que je faisais pas que du drone, donc il fallait... C'est super important, en fait, tout l'écosystème autour. Plus t'augmentes en caméra, plus il faut augmenter le stockage, plus il faut augmenter la capacité de traitement des vidéos... Et ouais, le sac, le transport, les batteries, ça coûte vite cher.
Alors, un point important aussi, c'est que du coup, en tant que pro, et puis surtout quand tu commences, bah, c'est difficile de faire respecter un peu son tarif, la tarification FPV, et de pas tomber dans le truc où t'acceptes un billet et voilà, c'est faut savoir se faire respecter. Surtout quand des fois t'es censé imposer un spotter à payer en plus, enfin des fois du coup tu te retrouves à demander à un client qui s'attendait à payer 500 balles 1500 balles plutôt. Comment toi tu t'en es sorti, comment t'as géré ça surtout quand t'as commencé?
En fait, c'est exactement la même approche que pour la vidéo classique. C'est vraiment, vu que je fais les deux, j'ai pu m'apercevoir que c'est exactement pareil. Chaque client n'a pas les mêmes budgets et donc en fait, faut s'adapter au budget, si tu veux travailler au début. Après, à un moment donné, quand t'as beaucoup de clients et t'as un certain standing, voilà, t'appliques tes prix et point final. Mais surtout au début, t'es obligé de t'adapter. Donc, faut faire comprendre aux clients que ça a des coûts, mais du coup, en contrepartie, que tu vas rester soit moins longtemps, ben voilà, qu'il va devoir faire des concessions.
Ok, donc tu t'adaptes à son budget, mais tu lui dis en échange, par contre, bah, soit tu me payes rubis sur l'ongle et pas dans 4 mois, soit effectivement je suis là moins longtemps, soit ce genre de truc, quoi.
Ouais, bon, après, c'est un petit client, normalement, il doit te payer direct. Hein, ou alors, c'est que les gros clients qui se permettent d'attendre. Mais,
ouais, en général, c'est les plus grosses boîtes qui mettent 6 mois de payer. Hein.
Exactement, exactement. Mais après, c'est les plus gros cachets, donc bon, tu peux te permettre d'attendre un peu. ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que tu peux négocier sur le nombre de prestas à la limite. Tu vois, si vraiment il veut, bah, il veut que ce soit rentable à la prestation, bah, tu peux dire ok, bah, on fait 10 prestas ensemble. Ou... Voilà, en fait, l'objectif c'est de s'y retrouver. Et ça dépend aussi de la prise de risque. Si c'est juste un vol en cinéhoop, c'est relativement simple, tu sais que tu vas rien casser. Bah, tu peux lui faire un prix relativement faible, donc ça peut être 300 balles pour une, deux heures. Tu vois, tu peux faire comme ça. Et après, à la demi-journée, mais après, ça dépend du déplacement que tu dois faire. Moi, si c'est un peu loin, si c'est à plus d'une heure de chez moi, bah, dessus, je dis à la journée. Hein. Enfin, je me pose pas de questions. Et après, je peux négocier le prix en fonction. Et après, ça dépend de moi aussi si ça m'intéresse, si ça peut m'apporter professionnellement. Si, voilà. Donc, faut tout balancer, il faut que ça te convienne. Au niveau financier, comme au niveau personnel, comme au niveau professionnel pour les projets. Faut tout mettre dans la balance, les pour et les contre, et après, c'est toi qui choisis. Donc, voilà. Après, si tu veux que ça en soit ton métier, à un moment donné, il faut gagner de l'argent. Donc, il faut que tu sois rentable et il faut mettre certains tarifs. Surtout si tu veux du bon matériel. Si tu veux vraiment évoluer. Après, il faut faire attention de pas se cramer dans le milieu et de cramer tout simplement le milieu, quoi. Si tu fais des tarifs trop bas, au final, ok, tu vas peut-être avoir plein de clients, tu vas travailler tout le temps, tu vas être fatigué. Tu vas fatiguer ton matériel, tu vas peut-être cracher plus souvent, du coup, ça va te coûter plus cher. Et au final, niveau rentabilité, tu vas pas t'y retrouver. Et en plus, tu vas pas te faire des copains dans le milieu, quoi. Donc, voilà, faut bien réfléchir à ce que tu fais quand même.
Il y a un moment où, du coup, tu t'es dit, je vais upgrader ma qualité d'image et que tu t'es intéressé au Cinelifter. Donc, ouais. Je crois que t'es passé, du coup, avec de la Blackmagic Pocket 4K.
Ouais. Bah là, j'ai de la 4K et de la 6K.
Ok, donc là, t'es passé en 6K aussi, très bien. Qu'est-ce que tu cherchais en cherchant de passer à ça, de la GoPro à ça plutôt. Et puis, voilà, comment ça se passe du coup quand on passe de 5 pouces à un Cinelifter?
Ok, déjà, première question, je m'ennuyais avec la GoPro. En fait, là, j'étais dans une période où je faisais du cinématique, long range, en montagne. Je voulais sortir de la belle image. Et à un moment donné, c'est un peu toujours la même image, l'image un peu très large, un peu déformée. Ok, il y a du 4K, du 5K, mais il manque ce truc, les flares sont pas beaux, c'est pas très organique. Et en fait, je me suis dit, c'est chiant quoi, enfin, j'ai envie de plus. Et du coup, j'ai vu des mecs qui commençaient le Cinelifter, c'est cher hein, du coup, ils commençaient avec les Komodo, avec tout ça. Et après, j'ai vu la Pocket 4K, je me suis dit, franchement, ça peut être très cool. Donc, je me suis monté un SIC. Et pour la petite histoire, en fait, c'est parce que c'était pour une Presta à la base.
Okay.
C'était pour une Presta Armani. Justement, je crois que j'en parle dans une vidéo. Et on m'a demandé, peut-être 2 mois avant, on a cette Presta-là, on a besoin d'un gros porteur, est-ce que tu peux le faire? Du coup, au bluff, j'ai dit, bien sûr, je peux le faire. Et j'avais zéro matériel, mais parce que je savais que j'étais en capacité de monter le matériel dans ces 2 mois, de le tester, plus ou moins.
T'avais 2 mois pour le faire, du coup. 2 mois pour faire ton premier Cinelifter fiable, prêt à voler, quoi.
Globalement, c'est ça. 1 mois et demi, 2 mois. Donc, déjà, c'est le temps d'avoir toutes les pièces.
Bah ouais, carrément.
Des fois,
ouais.
C'était pas dispo, tout ça. Après, de monter, de bien voir et de pas se tromper, pas cramer des trucs. Voilà. Et après, est-ce que j'avais. Si, j'avais du coup acheté la Blackmagic 4K. Parce que je me suis dit, ok, il faut que j'achète une caméra, j'ai pas le budget pour acheter une Komodo. Ça fait beaucoup pour une première Presta. Le client avait une Komodo, donc je savais que j'allais voler avec sa Komodo à lui. Mais je me suis dit, quand même, au cas où, s'il y a un problème ou quoi avec sa Komodo, j'ai envie de pouvoir sortir des images. Donc je me suis dit, la Blackmagic 4K, parfait. Pas cher, légère, on y va. Et j'en suis toujours très très content. Et voilà, donc j'ai fait ma première Presta et heureusement qu'ils n'étaient pas du tout exigeants et que le shot à faire était super simple. Donc c'était en Sicile, donc je suis parti 3 jours du coup en Italie.
Ouais, ouais.
Et c'était un petit shot où je vais faire juste un peu un shot Russian Arm. Tu vois, une voiture avec un grand bras
qui
fait des plans un peu derrière la voiture. Globalement, c'était ça qu'il fallait que je fasse.
Okay, ouais.
Mais du coup, eux n'avaient pas le budget pour une voiture et ce bras articulé. Du coup, ils ont dit, le drone FPV, c'est parfait. Et donc, j'avais juste ce petit plan à faire, comme ça, tourner un peu autour d'une petite voiture qui roulait à 2 à l'heure. Donc, c'était parfait pour une première Presta. J'avais pas de batterie gros porteur, j'avais que des batteries de 5 pouces.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'elles n'étaient pas en stock et tout. Donc, je foutais 2 batteries de 5 pouces sous ce truc où la lens de la Komodo était énorme. Donc, le drone était bien, bien trop lourd. Donc, je volais 1 minute 30.
Waouh!
Grand max. Pour faire mes shots.
T'avais quelle vitesse à peu près avec ton SIC et la Komodo? T'atteignais quelle vitesse?
Là, j'avais pas besoin d'aller vite.
Ouais. Donc t'étais tranquille.
À 70, quoi, tu vois.
Ok, d'accord.
Oui. Donc, heureusement que je tirais pas beaucoup sur la batterie. Ça aurait été une autre Presta, j'étais mort, j'étais fini. Mais donc là, pour cette Presta, ça l'a fait. Ils ont été super cool et vu qu'ils connaissaient rien au drone, ils se sont dit, 1 minute 30, c'est pas beaucoup. Je dis, mais ouais, c'est normal. En fait, c'est ça, la confiance.
Oui,
faut
y aller vraiment
assuré
au bluff,
et confiant.
Quoi. Okay.
Ouais, jusqu'au bout. Mais après, j'étais sincère et j'ai sorti les images dont ils avaient besoin. Donc au final, ça l'a fait. Et j'ai fait un tarif pas hyper élevé. Enfin, je sais plus combien c'était. C'était pas 3005 ou 4000. C'était 3005, je crois. Donc, mais au final, j'ai volé que 30 minutes. Je pensais que j'allais voler toute la journée et tout. En fait, j'ai volé que 30 minutes. Donc, hyper rentable.
Oui, carrément.
Et, très
et en même temps,
beaucoup
de temps de prépa aussi pour ce tournage-là, qui t'a
par
servi
contre,
derrière.
Ouais.
Mais bon, ça t'a beaucoup appris aussi.
Je savais que je voulais me lancer, mais c'était le petit coup de pied au cul pour me dire, ok, tu te lances parce que t'as une presta. Du coup, t'as du budget. Tu utilises ce budget de la presta pour monter tout ton matos et tout. Mais quand même, après cette presta, je me suis dit, ça craint de ouf. Là, ça s'est bien passé. Mais j'ai vraiment pas le matos et j'ai l'expérience de vol, ok.
Puis t'avais un drone, quoi.
Et encore pas avec le gros porteur. Et j'avais un drone, ouais, j'avais qu'un drone. Non mais, enfin, débile. Débile, si vous pouvez éviter. Parce que après c'est un coup à te griller. Mais j'ai eu la chance que ça s'est bien passé et que justement ces gars-là, ils m'ont proposé d'autres contrats après.
Bon, top,
je crois
ça.
Deux autres.
Parfait.
Donc... c'est cool.
Et une chose à faire attention, du coup, c'est pour dire aux gens quand même, c'est que toi, t'as pas dit genre je fais tous ces investissements-là pour le fun et les clients viendront. T'as quand même senti le vent tourner au niveau des clients aussi pour te dire je me lance là-dedans, quoi.
Ouais, je savais, j'avais deux, trois petites touches, deux, trois petites demandes. Et moi, comme je t'ai dit, je m'ennuie un peu à la GoPro. Donc je me suis dit, ouais, il va falloir que je passe, mais c'était relativement nouveau, il n'y avait pas trop de tutos et tout, donc je savais pas trop quel matos acheter, comment régler sa machine, comment ça se passait, la stabilisation et tout. Il y avait beaucoup beaucoup d'inconnus. Mais bon, des fois il faut tenter, hein. Faut prendre ce risque-là. Et
alors au final, qu'est-ce qui change pour toi, que ce soit dans le pilotage ou bon, déjà on va commencer déjà pilotage. Qu'est-ce qui change par rapport aux autres machines?
Pilotage. Déjà entre le 5 pouces et le gros porteur, ce qui change c'est le prix. Qu'on soit bien d'accord. Et ça joue quand même pas mal. Tu vas pas faire les mêmes shots, pas faire les mêmes, prendre les mêmes risques. Après tout dépend des prestas et de ton niveau dans le game. Si t'as 3 machines, 3 Red Komodo, mais bien sûr que tu peux prendre des risques et qu'il y a du budget derrière. Mais voilà, tout dépend de ça. En fait c'est toujours pareil, le FEV, faut prendre en compte le budget, le risque, ton expérience, et connaître tes limites. Et du coup la grosse différence c'est l'appréhension dans laquelle tu dis ok, il me faut ce shot là, parce que généralement tu connais les shots à l'avance. Le gars il dit bon ok, il faut que tu fasses ça à peu près, je veux ça, un top shot, après tu redescends, tu tournes autour, faire un orbite, et donc du coup tu vas le faire, mais en prenant une grosse marge. En 5 pouces tu peux être à 50 cm de l'eau, tu vois, ou du sol et passer entre les arbres. En gros porteur, c'est différent. Faut tout faire, mais de manière beaucoup plus sécurisée. Et faut pas cracher, en fait. Voilà. Si tu craches, t'as une Red Komodo qui s'écrase, qui est même, peut-être même pas à toi. Voilà. Ça peut être dur à gérer. Donc c'est les premières prestas qui peuvent être compliquées, où il faut pas faire le con, pas faire d'erreur, parce que si tu craches le drone, tu perds tout. Le client, ta crédibilité, le matériel, le budget, enfin tout. Donc,
les enjeux sont bien plus élevés.
Voilà, mais après au niveau du pilotage, si tu sais piloter un 5 pouces, tu vas savoir piloter un gros porteur. Faut juste prendre en compte qu'il est plus grand, plus large, donc tu vas pas passer aux mêmes endroits.
Mais niveau sensation, si c'est bien buildé, bien tuné, tu retrouves un peu les sensations 5 pouces ou qu'est-ce qui change?
Non, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Le 5 pouces est hyper maniable, ça a de la patate, un très bon rapport poids-puissance. Le gros porteur, on sent que ça a plus de portance. Quand tu coupes les gaz, il descend moins vite parce qu'il a plus de prise au vent. Quand tu mets les gaz, il y a plus de latence, tu vois, à l'accélération. Il est plus gros, il se déplace plus lentement. T'as l'impression qu'il va moins vite, mais en fait, en vitesse de pointe, il va aussi vite, voire plus vite des fois que les 5 pouces. Donc, c'est juste un feeling. T'as un camion. Voilà. T'as un camion et là t'as une voiture, tu vois, voilà, c'est ça.
Ok.
Dans les virages, faut prendre la place, faut anticiper un peu plus.
T'as parlé aussi pas mal du fait que des fois c'est pas ta caméra qu'on met sur le drone. Comment ça se passe niveau assurance, genre de truc, dans ce... si jamais il devait arriver une merde?
Là c'était sa caméra perso, tu vois, en plus.
Ouais.
Donc je sais même pas si c'était à sa boîte ou quoi, je sais pas. Donc je t'avoue que je préfère pas savoir. Non mais dans ce cas-là, je lui rembourse ou je paye les réparations. Enfin, à un moment donné,
c'est toi qui es responsable.
Oui, pour moi, je pars de ce principe-là. Ok, c'est une assurance ou quoi, mais je pense pas sur ce genre de caméra, ça coûte cher, c'est pas très intéressant.
En général, les drones sont exclus de toutes les assurances, sauf les assurances drones.
Exactement, et comme si tu lui dis exactement à l'assureur que tu l'as mis sur un drone, il va te dire « Ah, mais c'était pas prévu ». Donc.
Ouais.
Donc, c'est... Non, il faut...
À moins de négocier une clause, c'est dans le cul-cul, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je pars du principe. Je suis pas un gars très carré au niveau de l'administratif, au niveau des papiers. C'est pas mon truc.
Mmh.
Par contre, je suis un gars franc et si c'est de ma faute, c'est de ma faute et j'assume les conséquences. Et après, je prends le risque. Tu vois, c'est la vie. Hein. Des fois, faut prendre des risques. Mais là, c'est passé et c'est comme ça. Des fois, ça passe pas et bah, il va falloir charbonner plus après. Voilà, c'est à toi de voir. Il y en a, ils auraient été peut-être incapables hein, parce que j'avais quand même de la pression, justement. Je savais que si je crachais, je perdais un peu tout. Hein. Que mon matériel, la caméra du client, qu'il aurait fallu que je rembourse. Enfin, beaucoup de choses, mais il ne faut pas y penser à un moment donné.
Si oui, sinon tu lances pas, oui, c'est clair.
Ça. Après, t'as différentes options. Moi, je suis un galérien. J'aime bien commencer, enfin, j'aime bien faire tout par moi-même et gravir les échelons petit à petit. Il y en a, bah, ils vont faire un prêt, tu vois, un prêt de 30 000. Ils vont acheter tout le matériel qu'il faut, ils vont s'entraîner. Et c'est très bien aussi. Après, il faut être sûr d'avoir les clients derrière. Donc, c'est des approches différentes.
Et alors, est-ce que tu fais toujours des tournages en GoPro aujourd'hui?
Ouais, j'en fais pas mal. Hein. Bah, les petits budgets.
Ok, donc clients, aujourd'hui, on va dire que le Cinélifter, c'est une offre en plus, mais tu n'as pas...
C'est ça, Cinélifter, là, actuellement, j'ai peut-être deux prestats par an, tu vois, ou... Après, moi, en perso, j'en fais, parce que ça me fait kiffer. Et ça va me rapporter des contrats et des clients après. Mais faut voir du long terme. Moi, c'est vrai que je vais pas démarcher, je vais pas pousser les boîtes de prod. Déjà, je veux faire mon expérience par moi-même et faire de l'image. Et après, ça arrivera quand ça arrivera. Pas de pression là-dessus. Et du coup, surtout, ouais, j'ai des prestas à côté. GoPro. Et au sol aussi. Donc, non, les prestas, j'en ai assez, en fait, pour moi. Pour ma société, j'ai pas d'objectif de croissance. Moi, c'est me faire kiffer. Vraiment, là, c'est me faire kiffer.
Bon, bah, c'est top, ça. Un dernier point que je voulais... Enfin, non, deux derniers points que je voulais aborder avec toi, c'était, premièrement, conception de frame. Tu as conçu une frame 5 pouces que je crois qu'on peut mettre en 6 pouces aussi avec les armes qu'il faut.
Ouais.
Et là tu t'es carrément lancé dans le défi de faire des châssis, enfin un châssis Cinélifter.
Ouais.
Pourquoi est-ce que tu te lances dans ce genre de délire quand on voit toutes les frames qui existent et puis du coup tout le taf que t'as déjà, quoi?
Bah, tout simplement parce que j'ai fait 3 ou 4 ans d'études dans un domaine.
Ok.
Et que j'ai envie de rentabiliser un peu. Non, et en fait, ça me fait kiffer. Moi, j'ai fait de la conception mécanique. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait un DUT GMP, génie mécanique et productique, où on fait de la CAO. On dessine des pièces en 3D sur l'ordinateur. Et après, j'ai fait quoi? Bon, en Erasmus, c'est une licence pro, toujours dans le même domaine.
Ouais.
Donc, du coup, j'ai quand même une expérience et je comprends la mécanique, comment ça fonctionne, les efforts. Et après, je fais pas de calcul. Hein. Je pourrais tout faire des calculs, mais...
C'est
moi,
pas des frames de bandes de... De bord théorique, c'est vraiment toi, ton feeling.
C'est ça, mais de toute façon, la majorité des frames qui sont sur le marché...
Je pense que c'est ça aussi, oui, tout à fait, ouais.
C'est ça, et même, ils regardent même pas ce qu'ils font. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que je fais les miennes aussi. Parce que moi, un prof m'a dit, ce qui est beau fonctionnera bien. Bon, si ça rentre dans les règles de mécanique.
Oui.
Donc je pars du principe que...
Mais quand tu comprends les règles de mécanique, du coup, tu comprends l'harmonie qu'il faut aussi, donc c'est ça rentre là-dedans aussi.
C'est ça.
Et effectivement, ce qui est beau pour moi qui n'ai pas fait tes études, pas forcément bien volé, quoi.
C'est ça, faut allier les deux. Mm. Et du coup, ouais, moi, je me suis mis le défi de faire une Flex One. Enfin, la frame 5 pouces, parce que c'est facile à faire, c'est pas très coûteux. Et surtout, j'ai une communauté et du coup, je pouvais me permettre de la tester. Du coup, j'ai fait des bêta tests. Et ça, ça m'a beaucoup servi parce que c'est vrai que mettre 1000 balles de conception de frame au début, peut-être un peu moins, tu vois, si t'en fais pas beaucoup, mais peut-être 500 balles, ça fait beaucoup quand tu gagnes pas beaucoup d'argent. J'étais en alternance. Ça fait un peu chier. Du coup, j'ai pu faire ça en Chine. Et du coup, à l'unité, avoir des frames qui coûtaient pas cher. Et donc, j'ai fait la Flex One V1. Attends, j'ai fait combien? Non, j'ai eu 3 Flex One. La Flex One Beta.
Ok. Ah, la Flex One Beta avant la V1. Ok, d'accord, ok.
Et du coup, donc, il y a eu 3 versions. Il y a eu une version, bah, du coup, là, on est sur la Flex One V2, qui est toujours d'actualité, qui, franchement, fait vraiment le taf. Et j'en suis super content. Après, est-ce que je ferai une V3? Si je fais une V3, c'est pour changer un peu le design, changer 2-3 trucs, mais globalement, dans l'idée, le design des bras, tout ça, c'est nickel. Et j'ai fait vraiment le même design pour mon grand porteur, au niveau des bras, parce que ben, on change pas une équipe qui gagne. Et pourquoi j'ai fait mes frames? Parce que justement, je voulais une frame qui me ressemble, et dont je suis... Déjà, c'est stylé de voler avec sa propre frame, premièrement. Et deuxièmement, oui, effectivement, pour la 5 pouces, il y a beaucoup de choix. Mais je voulais faire tout comme moi, ça m'allait. Voilà. Tout ce que j'aimais dans une frame, bah, je voulais le condenser dedans et voir ce que ça pouvait sortir. Et voilà. Et pour le Cinelifter, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de frames sur le marché qui sont intéressantes, je trouve.
Ouais. Okay.
C'est. Il y a des défauts, il y a tout le temps des défauts. Vraiment, le SIC, il est bien, il est pas cher. Mais niveau conception, c'est fait avec le cul, vraiment, je comprends pas, donc, et c'est à l'intérieur, c'est petit, y a pas d'espace, c'est relou, et je suis pas fan du tout, pas fan, donc pour la fiabilité, les ESC sont tout collés, j'aime pas, donc, voilà, après j'ai acheté le dernier c'était un Oni Bagger, donc hyper recommandé,
ouais.
C'est vraiment une grosse frame, mais elle est super lourde. Et en fait, c'est vraiment fait, c'est un ciné-lifter, mais où limite, c'est tu peux mettre un gimbal dessus.
Donc, ah oui, c'est une frame. Ce ouais.
C'est ça, c'est des grosses vis M4, c'est vraiment un truc fat, et j'ai pas besoin de ça. Donc, en fait, il fallait que je trouve un juste milieu, et en plus, l'intérieur, c'est mal foutu pour la conception, pour placer tes stacks et tout. Il n'y a pas ce que je voulais. Il n'y avait vraiment nulle part ce que je voulais. Donc là, c'était au mois de décembre, je crois, ou peut-être novembre. Je sais plus exactement. J'avais un peu de temps, vu que c'est un peu une période creuse pour la vidéo. Ouais. Parfait. Donc je me suis dit, allez, go. Et en une semaine, j'ai fait le design. J'ai tout fait, j'ai avancé. Et après, je me suis laissé un peu de temps, tu vois, pour réfléchir. Et après, je suis arrivé à ça relativement rapidement. Et j'en suis très content. Là, franchement, du coup, il y a deux gars qui voulaient la tester.
Là, t'es encore en phase de test, j'ai vu, ouais.
Ouais, mais là, c'est validé. Hein. C'est validé sur les deux, sur le X4, X8.
Ok,
et
top.
Pas de vibration.
Une préférence entre les deux?
Je préfère le X4 avec la Blackmagic 4K. Pour moi, c'est le setup parfait en 9 pouces. Alors là, c'est pépite, tu peux même faire du long range.
Ok.
Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est vraiment un peu le setup qui est entre les deux, tu vois, entre la setup cinéma lourd et tout, contraignant, et le 5 pouces. C'est vraiment pile entre les deux. Donc c'est ça que j'aime bien avec ce petit setup là, parce que j'avais aussi la Tortank, j'avais fait une vidéo Tortank de Laurent Athénol,
ouais,
qui est très cool comme frame, très cool hein, franchement, très belle finition, rigide, compact. Après, il y a pas beaucoup de place à l'intérieur, mais ce qui m'embêtait le plus, c'était l'inclinaison de la caméra. Donc
il y avait des contraplats,
tu peux pas la baisser à plus de 10 degrés, enfin, tu peux pas la mettre à plat. Donc, okay. Si tu veux filmer du ski ou quelque chose comme ça, c'est mort.
Oui, effectivement. Ouais.
Ou du vélo. Donc, et pour moi, je me suis dit, non, ça me limite trop. Ça me limite vraiment trop.
Donc là typiquement, ta frame Cinelifter, t'as prévu un tilt négatif dessus?
Il n'y a pas un tilt négatif, mais c'est un tilt à zéro.
Zéro, ok, d'accord.
Donc, c'est ça, j'utilise un support... Universel, c'est un DAC support, je crois, V3. Je crois que c'est QuadLab qui fait ça.
Ah oui, je vois ce que c'est, vendent, ok, très bien.
Ils vendent un peu cher, je crois que c'est 180 balles ou un truc comme ça. Mais par contre, c'est en alu, c'est quali, c'est propre. Et ça, je le visse sur ma plate de la Flexine. Et c'est parfait, quoi. Je peux aller à 50 degrés. C'est super simple à installer. C'est léger, efficace. Enfin, voilà. Donc, je me suis pas.
Parfait, quoi.
C'est ça. Au début, j'avais designé un support en carbone comme tout siphon, tu vois, comme le SIC. Mais au final, ça, c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est un peu plus cher, mais au moins, c'est propre et efficace.
Oui, des fois, je pense qu'il vaut mieux prendre, surtout en Tiny Lifter Pro, le truc qui marche.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pas te prendre la tête.
Et en tant que possesseur de Blackmagic Pocket, on voit pas mal de gens pour les Tiny Lifters, les Naked. Mm. Qu'est-ce que t'en penses de cette tendance, toi?
Bah, j'en pense que c'est comme les GoPro Naked. J'ai pas testé. Ça a l'air très bien, le pigeon 7 pouces. Sur le papier, c'est incroyable. Ça, c'est petit, c'est maniable.
Puis c'est très cool. T'as pas besoin de parachute en S3, ouais, c'est ça qui est bien, quoi.
Ouais, au niveau du poids, faut voir. Après, c'est vrai qu'en ville, je t'avoue que moi, je vole pas en ville en FPV.
C'est bien, j'avoue que ça doit être...
Faut bloquer les rues et tout. À chaque fois que je vole, c'est... Bon, soit dans des espaces vraiment privés, vraiment fermés, soit c'est en intérieur, donc bon, dans tous les cas... parachute ou pas, enfin voilà. Ouais. Après, chacun pense
c'est
à ce qu'il veut de la réglementation.
C'est pas un critère pour toi, en fait, pour l'instant.
C'est ça. Mais ce que j'en pense, c'est que ça peut être pas très fiable. Je sais pas s'il y en a qui ont eu des problèmes, mais j'imagine que si tu prends une petite goutte d'eau au mauvais endroit, voilà, c'est comme une GoPro Naked.
Je pense qu'il faut foutre un peu de tropicote sur la carte mère, non?
Je sais pas, mais dès que tu démontes un truc... Faire attention. En tout cas, pour la GoPro, ça m'a prouvé que c'était pas méga intéressant.
Ouais, moi je vole en Cinelog 25, mais j'ai pas eu trop de problèmes. J'ai dû envoyer plusieurs fois à Simon Liégeois ma GoPro 8 parce que j'avais eu des crashs. Mmh. Effectivement, ça avait un peu merdé le module Wi-Fi, etc. Mais après, la GoPro 10, typiquement, j'ai pris une Naked 10 aussi. Et ce qui est pas mal, c'est l'écran frontal où tu vois ton image aussi. Donc, t'as quand même une autre ergonomie au fur et à mesure des modèles, quand même. Mais c'est vrai que forcément, c'est moins bien qu'une GoPro. Voilà, on va pas se mentir.
Quand il faut t'amuser à brancher l'écran et tout, moi j'ai vite abandonné. Je me suis dit, franchement, pour les GoPro, un Cinehoop, ça va très bien. Dans la majorité des cas, c'est très rare au final. J'ai jamais eu de Presta où j'avais besoin d'un truc tout tout petit et tout léger. Donc bon, voilà, ça dépend des demandes. Ouais. Moi j'ai pas trouvé d'intérêt. Donc, et la Blackmagic, c'est pareil. J'ai eu un crash avec la Blackmagic et j'étais content de l'avoir en full, quoi. Sinon, j'aurais tout pété, je pense.
Oui, ça m'étonne pas.
Donc,
est-ce que aujourd'hui, en tant que télépilote pro, forcément, t'es plus obéiste. Est-ce que tu prends toujours du temps pour voler pour toi? Est-ce que tu prends toujours du plaisir?
Ouais, là, c'est la grande question. En fait, quand ton taf, c'est une passion... mais on te demande pas les mêmes choses entre la passion et le taf, c'est-à-dire que le taf il faut sortir de l'image, donc tu fais de l'image, mais que t'aimes faire ça, bah du coup tu passes que du temps à faire ça et tu te rends pas compte que tu passes même plus de temps à faire ce que t'aimais, le freestyle, et ce qui est pourtant complémentaire et utile, mais donc faut arriver à s'obliger carrément là, faut s'obliger à se mettre des créneaux, ok là je vais aller voler, là je vais me faire kiffer, et c'est important de déjà, pour régler ses machines, pour avoir des machines fiables, c'est important, ça. Et ça, dernièrement, je l'ai pas assez fait. Et je m'en suis rendu compte que sur des prestas, j'ai eu des couilles. Vraiment, j'ai eu des couilles, Cinehoop qui volait pas. Enfin, des petits problèmes qui t'arrivent pas si tu voles régulièrement, ou un peu plus régulièrement, et pour le plaisir. Donc, c'est important quand même de se faire kiffer et d'aller voler pour le plaisir, pour fiabiliser ses machines.
Dans cette émission, j'ai bien envie de poser à chaque invité une question pour se rappeler nos débuts. Parce que, alors du coup, toi en plus, ça fait longtemps que tu pilotes. J'ai l'impression que pour beaucoup de pilotes, il y a eu un moment où il y a soit eu quelqu'un qui t'a dit quelque chose, soit toi qui réalises quelque chose, mais il y a quelque chose qui t'a un peu débloqué des trucs et qui t'ont permis de bien avancer. Est-ce que toi, par exemple, tu te souviens un peu de ce super conseil que tu aurais reçu qui t'aurait permis de vraiment avancer en tant que pilote de drone?
Alors, tout au début, ce qui m'a fait avancer, c'est d'avoir du bon matériel. Parce que pendant longtemps, j'ai volé ou essayé de voler avec du matériel le plus cheap possible. C'était vraiment les VTX à 5 euros, les moteurs éclatés Racer Star. Et donc au début, pour faire du montage de drone, démontage de drone, c'est pas mal, parce que du coup tu dois réparer souvent. Mais je volais quasiment pas beaucoup et ça aurait pu me dégoûter, clairement ça aurait pu me dégoûter. Donc commence avec du bon matériel, c'est un conseil que je pourrais donner à tout le monde. Et dans tous les cas, c'est pas du, de l'argent jeté par les fenêtres, parce que si tu veux arrêter, tu peux revendre des bons moteurs, une bonne radio, tu vas pouvoir la revendre facilement, tandis que des trucs éclatés, jamais tu vas pouvoir les revendre, ou alors très peu cher. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais et qui m'a fait avancer. Une fois que j'ai eu du bon matériel, boum, j'ai bien évolué, je me suis régalé, que ce soit au niveau du masque, que ce soit au niveau la radio, j'avais quand même une bonne radio rapidement, parce que je m'en suis rendu compte que c'était important. Et ouais.
Ouais, ça t'a mis ça en confiance, et puis t'avais moins de SC qui claquent, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais au début, si tu regardes mes vidéos du début, j'avais la tête dans un carton, littéralement, avec un petit écran pourri, avec un TX à l'extérieur, avec deux petites antennes. Enfin, ça n'avait aucun sens. Mais ça m'a permis de mettre le pied dedans, et du coup, vu que je travaillais pas, j'étais en études. Enfin, j'avais zéro argent, donc. Mais j'ai quand même réussi à m'impliquer dedans et à trouver après de l'argent pour m'éclater.
Bon, bah écoute, c'est top. Est-ce que tu peux nous faire un point sur tes réseaux ? Est-ce que les gens peuvent te trouver ?
Ouais, ils peuvent me trouver sur YouTube, où je fais des tutos, des reviews, des trips avec des potes en FPV. Et après sur Instagram, FlexFPV. Et c'est tout. TikTok, j'y suis pas. Enfin, j'y suis, mais j'ai pas trouvé le temps et le format qui va bien. Mais sinon, ouais, là-dessus, c'est cool. Ah oui, aussi, j'ai un podcast.
Yes.
Airflex, tout simplement, sur Spotify ou Apple Podcast. Et ça fait un petit moment que j'ai arrêté, mais c'est un format que j'adore. J'adore faire. Là, je kiffe ce qu'on fait, c'est trop cool. Et moi-même, j'écoute beaucoup de podcasts et j'encourage les gens à écouter des podcasts dans la voiture ou ailleurs. Parce que ben, on peut apprendre énormément de choses. Voilà.
Bah écoute, merci beaucoup. C'était vraiment top de t'avoir dans le podcast pour discuter de tout ça. Ce qui est surtout très intéressant, c'est que pour préparer l'épisode, j'ai regardé une interview que tu avais fait avec Culture en 2020 où tu te lançais tout juste. Donc c'est chouette d'avoir fait ça et de voir un peu l'évolution que tu as eue en 3 ans, quoi.
Je sais même plus ce que je disais.
Bah, tu pourras aller voir, c'est pas mal. T'es avec Finky et
ouais,
Tom.
2000... Ok. 2020, c'était tout au début, ouais, effectivement. Donc, ouais.
Ouais, c'est ce que tu disais, t'étais en train de te lancer avec un ciné whoop, un 5 pouces, et puis let's go, quoi.
Ok. Ouais, trop chouette. Top. Bah, du coup, j'ai bien évolué, je suis content.
Carrément. Bah, écoute, un grand merci à toi, et puis, bah, peut-être à une prochaine.
Ouais, allez, ciao.
J'espère que ce second épisode en la compagnie d'Airflex vous a plu. N'hésitez pas surtout à aller voir la page du podcast et à vous abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes. Et vous pouvez également visiter les pages Facebook et Instagram pour me donner vos suggestions de pilotes, mais aussi me faire des retours sur les derniers épisodes. Merci à tous d'avoir suivi le cockpit et à très bientôt.